France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Je suis une trauma des chats, traumatisée depuis qu'un chat, dans des circonstances encore floues, a trouvé judicieux de prendre son élan avant de s'accrocher à ma tête d'enfant, puis de laisser glisser ses griffes acérées le long de mon corps. Et comme si cela ne suffisait pas, le chat a réitéré sa cascade quelques minutes plus tard. C'était il y a 45 ans et depuis, disons qu'entre les chats et moi, la relation est compliquée. Distancié surtout. Je peux m'extasier devant une vidéo trop mignonne, de chatons trop mignons, les approcher pas vraiment, les caresser encore moins. Et c'est là que l'équipe de Grand Bien vous fasse s'est dit « Tiens, si on faisait une émission sur les chats, avec comme argument, ça te permettra d'exorciser ton trauma. » Réponse à la fin de l'émission. Mais une chose est certaine, l'univers des chats est passionnant. Et vous, quel rapport entretenez-vous avec vos félins? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France. Et vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le mercredi 7 juillet, vous écoutez France Inter. Grand Bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Eva Rock.
Les chats traversent l'œuvre de Baudelaire. Ce sont des animaux donc d'une grande beauté qui ont toujours fasciné certains poètes. Mais jamais je n'avais pensé avoir moi-même un chat. Et puis finalement on a eu cet ami saint. On a cherché un nom. Il avait un nom d'ailleurs sur son pédigré, mais que j'aimais pas beaucoup. Et puis finalement on l'appelait tout le chat parce que c'est le plus ancien des chats, c'est le chat quoi.
Vous qui êtes passionné par le langage, par les mots, par le jeu avec les mots, pensez-vous que le jazz, par exemple, a un lien avec les animaux?
Le jazz?
Ouais.
Mais le jazz et les animaux, par exemple, le jazz, en effet, j'entends une très belle musique de Miles Davis quand je vois mon habit saint bouger.
La voix de Claude Nougaro et la musique de Miles Davis, jolie entrée en matière pour parler des chats et de la façon dont ils se sont imposés dans nos vies quotidiennes. Trois invités sont avec nous ce matin. Bonjour Éric Baraté. Bonjour, vous êtes avec nous depuis Saint-Étienne grâce aux moyens techniques d'ici Saint-Étienne-Loire. Historien, vous avez publié Culture féline, 18e, 21e siècle. Les chats créent leur histoire, c'est paru aux éditions du Seuil. Bonjour Brunhilde Rachmadou.
Bonjour Eva.
Éthologue, vous êtes consultante en comportement du chat. Vous êtes rédactrice aussi pour 30 millions d'amis et autrice du livre Comprendre son chat. C'est chez Tana Éditions. Alors, c'est vraiment le guide pratique, complet, didactique pour mieux comprendre son chat et surtout à avoir avant d'adopter un chat, je trouve, pour avoir tous les conseils. Vous allez nous en donner quelques-uns tout au long de cette émission. Et avec nous également un artiste qui aime les chats. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir, homme poétique, réalisateur, fondateur du groupe Dionysos. Vous nous aviez émus avec un premier roman, La mécanique du cœur. Votre dernier ouvrage est empli de la même poésie avec L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. C'est chez Albin Michel. C'est un livre qui se décline aussi en bande originale et en spectacle musical. Toutes les informations pour les prochaines dates du spectacle sont à retrouver évidemment sur la page de l'émission via l'application Radio France. Éric Baraté et Mathias Malzieu, vous avez un point commun improbable. Alors bon, la passion pour les chats, certes, mais aussi le hamac. Éric Baraté, que s'est-il passé le 15 août 1985 ?
Eh bien, une révélation, un ordre de Dieu. J'étais dans mon hamac à la campagne et je cherchais un sujet de thèse, et c'était un 15 août. C'est pour ça que je dis c'est un ordre de Dieu.
Oui.
Et d'un coup, ça m'est tombé sur la tête. Je me suis dit, il faut que je travaille sur les chats, sur les animaux. Les chats, c'est venu après. Voilà. Et la légende dorée d'Éric Baraté dit qu'il a vu descendre une colombe, mais ça, on n'est pas obligé de le croire.
Mais c'est vraiment...
Mais le reste, ouais. Le 15 août, le hamac, c'est vrai.
C'est vrai. Et donc, vous êtes intéressé aux animaux. Et puis, effectivement, les chats sont venus ensuite. Mathias Malzieu, vous aussi, c'est dans un hamac qu'est née l'idée de votre récit. J'arrive pas à parler de roman, d'ailleurs. C'est plutôt
vous
un
avez
conte.
Raison.
C'est plutôt un conte, on pourrait dire.
C'est un récit, mais avec les outils du conte.
C'est ça. Et c'est aussi dans un hamac... J'allais faire une liaison vraiment très dangereuse. Un hamac qui est né l'histoire.
Exactement, oui. Parce que ces deux adorables chats, à part nous réconforter, être les arbitres consolatoires d'un deuil, ne faisaient absolument aucune bêtise. jusqu'au jour où j'avais laissé traîner dans mon hamac un recueil de poèmes que j'écrivais où je m'amusais sur le double sens entre ma femme et la chatonne, qui s'appelait Chatonne au, avec un S entre parenthèses. Et c'est le seul livre qu'elle a déglingué.
Votre chatte ?
Oui.
Elle a déglingué le bouquin.
Elle a chiffonné, ouais. Elle a mordi, il y a des trous dedans dans la couverture, etc. Et c'est là que je me suis dit, ça pourrait être amusant d'imaginer qu'ils dévorent les livres comme nous, que ça les enrichisse et donc que ça les conscientise.
Que ça les conscientise et qu'ils aient une parole, en fait. Hein, parce que c'est vos deux chats, Tornado et June, qui prennent la parole pour raconter leur vie à bord de la péniche où vous vivez avec votre femme Daria Nelson.
Tout à fait.
Et vous venez juste de le dire un peu, mais c'est une période où vous traversez un sale moment tous les deux avec votre femme. Qu'est-ce qui se passe, en fait ?
En fait, il y a eu une histoire de fausse couche. Mais plus grave encore, avec une maltraitance gynécologique qui a failli la tuer à 10 minutes près.
D'accord.
Donc derrière, il y a en plus, il y a tout un travail qui se fait de deuil. Et qui, dans le travail du deuil, elle s'aperçoit que non seulement elle n'en veut plus, mais qu'elle n'en a peut-être jamais voulu. Et qu'elle a fait ça pour moi.
Oui, et parce que vous avez
envie de l'enfant.
Et moi, je continue.
Et donc, dans ce moment complexe, c'est vrai que les chats ont été un peu le coton dans les angles. Et donc, j'ai mis 2 ans à ne pas écrire ce livre. Et c'est quand j'ai vraiment eu cette idée de faire parler les chats que j'ai trouvé le bon équilibre de légèreté et finalement d'une meilleure profondeur parce qu'il y avait un meilleur recul. Parce qu'il y avait aussi une autodérision possible en prenant le masque du chat.
Oui, alors je cite juste un de vos chats qui raconte leur négociation, il parle de vous et de votre femme, leur négociation poético-émotionnelle se sont soldées par le compromis suivant, ils auront des chats, nous sommes donc une sorte de lot de consolation, un cadeau d'appoint qui sait attendre patiemment, sans faire de crise d'adolescence, 2 enfants light montés sur coussinet. Et on comprend que ce récit et à travers la voix de vos chats, en fait, vous prenez du recul par rapport aux événements qui vous sont tombés dessus brutalement.
Et en plus, l'un des petits chats est tombé gravement malade tout de suite.
On va en parler, bien sûr.
Et du coup...
On se décentre, en fait, aussi.
C'est exactement ça. C'était qui tout double. C'est-à-dire que, effectivement, je pense que je n'aurais pas écrit ce livre, en tout cas pas comme ça, si Tornado ne s'en était pas sorti. Mais là, finalement, l'énergie qu'on a mis à le sauver, bien sûr, a été un stress supplémentaire. Une peur, une tristesse aussi de le voir dans cet état, mais il nous a mobilisés outre notre propre traumatisme et ça a permis aussi une nouvelle dynamique.
Ouais. Brunil Rachmadou, vous n'avez pas de hamac dans votre histoire personnelle avec les chats ?
Non, j'y ai réfléchi, mais je ne crois pas. Non.
Mais je crois qu'il est important de rappeler, on va évidemment parler de votre livre et donner beaucoup de conseils aux auditeurs, mais je crois qu'il est important de rappeler qu'adopter un chat, c'est d'abord une responsabilité, vous le dites à plusieurs reprises. Chaque été, il faut le rappeler aussi, des centaines de milliers de chats et de chiens sont encore abandonnés. Est-ce que vous pensez que mieux comprendre le comportement des chats, comme vous nous y invitez, permet sans doute d'éviter une partie de ces abandons ?
Oui, tout à fait. Alors, je dis souvent que les chats ne sont pas livrés avec un mode d'emploi, parce que très souvent, en fait, les adoptions sont des adoptions coup de cœur, et les personnes ne prennent pas forcément le temps de se renseigner sur les besoins de l'espèce, sur la disponibilité qu'il faut avoir, le budget, le matériel qu'il faut acheter, etc. Il y a toute une liste d'éléments qui vont être importants, indispensables, en fait, à connaître avant d'adopter le chat. Et très souvent, on va commencer à demander de l'aide quand il y a des problèmes qui sont déjà bien installés. Et c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué. Alors qu'on pourrait, en fait, démarrer sur de bonnes bases avec des bons conseils, en lisant un livre, en se renseignant auprès d'un spécialiste en comportement, par exemple. Et puis, ça permettrait effectivement de ne pas prendre de décision, par exemple, d'abandon du chat à la première difficulté.
C'est pour ça l'importance de votre livre, notamment. Éric Baraté, on a besoin aussi de vos lumières d'historien. De quand datent les premiers signes de domestication des chats ?
Oh, c'est très vieux, hein. Là, il y a eu 2 domestications. Une première, il y a 10 000 ans, à peu près, dans le Moyen-Orient actuel, la Turquie, l'Irak. C'est une domestication qui n'a pas beaucoup essaimé. Et puis, il y a une 2e domestication, c'est la plus connue, en Égypte, il y a à peu près 4 000 ans. Et c'est cette domestication qui a essaimé. C'est-à-dire que tous nos chats sont issus du chat sauvage africain qui a été domestiqué en Égypte.
Et alors la suite de l'histoire, vous la racontez très bien dans votre livre, et pardon pour le résumé qui suit, mais on comprend en vous lisant que le chat est perçu respectivement comme une divinité par les Égyptiens, puis après un symbole de dépravation sexuelle par les Romains, un animal démoniaque au Moyen-Âge, un objet d'ornement entre le 14e et le 18e avant de devenir un animal de compagnie. On a l'impression qu'il n'y a aucun autre animal qui n'a été considéré de la sorte.
Ah, le chien, ah, le, oui, effectivement, ce va-et-vient, ce passage de la divinisation égyptienne à la malédiction occidentale et puis la revalorisation récente, effectivement, aucune autre espèce n'a connu ça. Même le chien n'a pas connu ces zigzags. Et c'est vrai que on part de loin, si on peut dire, par rapport à la situation actuelle, hein, puisque le chat a été longtemps vu en Occident comme un animal démoniaque. Hein, c'est le chat noir, c'est le chat tigré. Le chat tigré, c'est le symbole du diable.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment l'animal au service du malin, au service de Satan, au service des hérétiques. Et puis, c'est l'animal qui porte malheur. Hein. Longtemps, les populations ont cru que voir passer un chat noir devant soi, c'était le symbole d'un mauvais présage. Hein. Donc, effectivement, et puis avec beaucoup de violence aussi vis-à-vis de ces chats, il y a un proverbe du Moyen-Âge qui dit « Il y a toujours une occasion de battre son chat hein, ». Et c'est l'animal classé le plus bas. Hein. On a des textes des 14e, 15e siècles qui nous parlent du classement des animaux de domestiques. En haut, vous avez le chien, le cheval.
Le cheval, oui.
Et puis tout en bas, après les vaches, les moutons, etc., vous avez le chat. Et le chat n'est jamais nommé. Et on a avec lui une relation extrêmement distante. Hein, on ne lui parle pas, on ne le nourrit pas parce qu'il faut, on le tolère tout de même parce qu'il est là pour chasser les rongeurs dans les maisons.
Oui, il a une visée utilitariste en fait, c'est ça.
Tout à fait. Ouais. Donc on l'accepte de partout, il rentre dans toutes les pièces, contrairement aux chiens ou contrairement à beaucoup d'autres animaux, mais avec une mise à distance complète et on l'appelle le chat. Il n'est pas question jusqu'à peu. De
leur donner
un prénom.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ouais.
France Inter.
J'aime pas les chats, c'est tout, je le dis, c'est pas grave. Le chat, il sert à rien.
Grand bien vous fasse.
Il est là toute la journée. Il se fout de ta gueule en plus, il te fait croire qu'il se passe des choses. Genre. Après, il dit tiens, je vais continuer à rien foutre, mais là-bas.
Eva Rock.
Un sourire avec Gad Elmaleh, oui, les chats sont inspirants et se sont imposés peu à peu dans nos vies. Nous en parlons avec nos invités du jour, l'auteur, musicien, poète, réalisateur, je ne sais plus comment on doit dire, Mathias Malzieux, l'historien Éric Baraté et l'éthologue Brunhilde Rachmadou. Mathias Malzieux, vous vivez sur une péniche. Est-ce que vous avez hésité à adopter des chats par rapport à la configuration un peu spéciale du lieu où vous vivez?
Oui, tout à fait. Parce qu'on avait peur, à la fois la route n'est pas très loin et la route fluviale encore plus près. Donc on était un peu inquiet de ça, et c'est là qu'on est tombé sur ces chats extraordinaires qui sont les British et les Scottish, et qui sont un peu des chats chiens, qui aiment l'intérieur, et qui sont des chats qui se blottissent, et avec qui on peut se blottir exactement beaucoup. Donc là on a trouvé la bonne espèce, justement, comme vous disiez tout à l'heure. On s'était bien renseigné sur leur comportement pour savoir si c'était un caprice de notre part ou si au contraire, dans notre intérieur, ils pouvaient avoir une belle vie. Et le fait est qu'on ne s'est pas trompé.
Ouais, et est-ce qu'ils ont des endroits sur cette péniche où ils se sentent particulièrement bien ?
Ah bah oui, déjà on a fait des grandes ouvertures, on a ouvert des hublots assez grands. Et on leur a mis avec des petites ventouses un arbre à chat collé. Et du coup, ils ont une vue absolument sublime sur le fleuve.
Oh, les chats heureux.
Et ils viennent. Et du coup, je sais que c'est très important pour les chats, la vue.
Oui.
Qu'ils puissent se projeter comme ça sur. Et du coup, ils sont très souvent là. Et du coup, c'est amusant parce que les gens qui passent en bateau ou en canoë ou en paddle ou tout ça, souvent s'arrêtent et des fois même prennent des photos parce qu'ils sont là comme des espèces d'objets de décoration vivants. Mais c'est vrai qu'ils aiment être à plein d'endroits, mais notamment, on les retrouve beaucoup à côté du jukebox vinyle, là, comme ça.
Vous l'écrivez dans le livre, parce que souvent, ils croquent aussi les vinyles.
Oui, alors ça j'ai un peu exagéré, ça c'est un peu le...
Ah
le...
Mais, non, ne dites pas ça, on va dire que
ils
c'est
ont
vrai,
mangé, ils ont mangé les vinyles. Livres, les livres, et du coup ça m'a donné, pour les faire chanter, le fait qu'ils,
mais oui.
qu'ils s'attaquent aux vinyles également.
Qu'on comprenne pourquoi aussi il y a une bande originale avec cette histoire. Bruni Drag-McDoo, cette question du lieu, elle n'est pas anodine, parce qu'il faut penser l'espace aussi pour, quand on adopte un chat. C'est vraiment extrêmement important. Et ce n'est pas le nombre de mètres carrés qui compte, en fait.
Oui, effectivement, on a toujours tendance à dire que c'est plutôt la qualité de l'espace qui prime sur la quantité. Alors, il ne faut pas non plus faire vivre les chats dans juste quelques mètres carrés. Ils ont la possibilité de vivre dans un studio, si le studio est très bien aménagé. C'est-à-dire qu'il va falloir exploiter la hauteur, mettre des... leur donner accès à des étagères, à voilà, un arbre à chat ou des arbres à chat. Parce que comme ça, ça va permettre d'augmenter en fait, la superficie, enfin même le volume disponible pour le chat. Donc ça, c'est important. Et ensuite, l'idéal, c'est quand même pouvoir leur donner accès à deux pièces pour qu'ils aient la possibilité d'aller dans une pièce s'ils souhaitent s'y réfugier parce qu'il y a moins de bruit, parce que c'est plus au calme, ou, par exemple si des invités sont présents. Oui. Donc ça c'est important aussi pour leur donner un petit peu de choix aussi sur leur déplacement et sur leur mouvement dans le lieu de vie.
Mais alors, grâce à vous, j'ai compris pourquoi ils montaient sur les tables. C'est pas forcément pour venir nous embêter ou prendre de la nourriture, forcément. C'est simplement parce qu'ils ont besoin de hauteur, les chats. C'est une façon de regarder aussi le monde depuis le haut. Ils en ont besoin.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs explications à ce comportement. Il faut se dire, en fait, que le chat est très petit par rapport à nous. Donc, quand il est au sol, qu'il nous regarde, en fait, il nous voit de... Voilà, on est très, très grand. Ouais. Quand il se met à notre hauteur, ça peut être tout simplement pour se mettre... à notre hauteur et pouvoir échanger avec nous par des regards, des vocalisations. Ça peut être aussi parce que ça lui permet d'observer l'environnement et ça va être rassurant aussi pour lui. Il se met en sécurité en se mettant en hauteur. Et puis, ça peut être aussi parce qu'il y a des choses intéressantes oui. à l'explorer sur la table. Il y a plusieurs explications. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à percevoir les choses à travers notre regard, notre façon de percevoir le oui. monde. Donc, comme vous le disiez, il ne fait pas ça pour nous embêter.
Oui. Vous avez vu, je suis restée polie. Hein, vous avez...
Oui.
Éric Baraté, à quel moment le chat a trouvé sa place dans nos intérieurs et notamment dans nos appartements en ville ?
Oh, c'est un long processus qui a commencé avec l'aristocratie entre 15e et 18e siècle. Ce sont les premiers à réinventer le chat de compagnie. Alors à l'époque, on importe des chats exotiques, rares et précieux, pour que ne pas faire croire que ces chats sont comme les chats communs, noirs, gris, les chats roturiers, les chats de gouttière, les chats de rue. Il y a une volonté de distance sociale et on importe par exemple beaucoup d'angora blanc. Avec un jeu sur la couleur, hein, le chat commun est un chat noir, c'est diabolique, alors que le chat blanc, c'est évidemment la couleur céleste. Et de l'aristocratie, c'est passé au 19e siècle, à la bourgeoisie urbaine, on voit ça chez des écrivains, Pierre Loti, Théophile Gautier, mais aussi beaucoup d'autres personnes qui vont faire du chat, en même temps que le chien d'ailleurs, un animal d'appartement. Théophile Gautier a son chat dans un appartement, ce qui veut dire qu'il faut que le chat apprenne à rester... dans un appartement, ce qui n'était pas du tout oui. Évident. Hein. La plupart des chats étaient des chats de gouttière qui allaient et venaient, qui montaient sur les toits, rentraient dans les maisons, ressortaient, et qui n'avaient pas du tout envie qu'on les cantonne. Hein. Et si on s'approchait trop près, eh ben, ils faisaient ce que le chat vous a fait lorsque vous étiez petite.
Hein. Oui, c'est-à-dire,
il se défendait. Hein. C'est... Ça a commencé comme ça, et puis la seconde moitié du XXe siècle a été l'époque d'une espèce de vulgarisation sociale du chat de compagnie. D'abord dans les classes moyennes des Trente Glorieuses, hein, ce qu'on a appelé les classes moyennes, et puis depuis une trentaine d'années, alors là il y a une vulgarisation extrêmement oui. forte dans toutes les classes sociales, y compris maintenant on voit dans le monde paysan des chats de compagnie, ce qui était impensable il y a 50 ans, ça s'est complètement vulgarisé en Occident et en même temps la demande vis-à-vis des chats a changé, c'est-à-dire que maintenant on veut des chats beaucoup plus interactifs, actifs, beaucoup plus proches. Il ne s'agit pas d'avoir, comme il y a 200 ans, simplement un chat qui est là pour chasser les souris. Et même, il ne s'agit pas de faire comme Pierre Loti, qui au 19e siècle avait deux chats dans sa maison et était content simplement de leur présence. Oui. Très peu de relations avec eux. De temps en temps, le chat venait pour se faire caresser sur les genoux, mais ça lui suffisait amplement. Nous, maintenant, on a besoin de relations beaucoup plus fortes. Et les chats s'adaptent à ça.
Oui, et d'ailleurs, Éric Baraté, Mathias Malzieu a utilisé l'expression tout à l'heure de chat-chien. C'est devenu quasiment un concept, le chat-chien.
Oui, c'est... j'ai inventé ça pour... Alors, ça ne veut pas dire que les chats deviennent des chiens, hein. Il y a évidemment une barrière biologique. Ça veut dire qu'on est en train de demander aux chats de se comporter à la manière des chiens, comme on l'a demandé pour les chiens. Hein, par exemple, accepter de se promener en laisse, par exemple. On voit maintenant de plus en plus de chats en laisse et qui vivent ça très bien. L'affaire est partie des pays anglophones du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande. Elle est passée par les États-Unis. Elle est arrivée ensuite en Europe. Et on fait aux chats ce qu'on a fait aux chiens. Hein. Vous savez, Balzac, dans le roman Béatrix, met en scène un aristocrate revenu après la Révolution et l'Empire, et qui fait rire toute la ville, une ville bretonne dont j'oublie le nom. Il fait rire toute la ville parce qu'il promène son chien en laisse.
Et ça paraissait incroyable et donc, à l'époque.
À l'époque, c'est impensable. Un chien, c'est un animal libre. Hein. Eh bien, voilà, le processus est en train d'être décalqué sur les chats. Maintenant, c'est pour ça que j'avais appelé ça les chats-chiens, qui sont des chats qui nous sollicitent, qui sont proches de nous, qui ont envie de jouer. Dernièrement, j'ai vu une petite vidéo sur Internet où le maître lance une peluche de l'autre côté de la pièce. Le chat court chercher la peluche et la ramène et il la met dans la main.
Et, oui.
Et le maître relance, etc., etc. C'était évidemment impensable il y a 50 ans avec nos chats d'appartement très calmes, dormant dans un canapé.
On va demander
avec les chats de gouttière.
Ouais. On va demander à Mathias Malzieu, vous leur lancez des petites balles aux chats, à Tornado et June.
Ah, ils ont leur jouet, ouais, on
ils
leur
ont
lance.
Leur aussi, ouais.
Et ils vont les chercher, mais ils les ramènent pas.
Ah, ils les ramènent pas. Ils sont pas encore tout à fait chat-chien, voilà. En fait, et encore du boulot. J'aimerais vous faire écouter un premier micro-trottoir qui a été réalisé par Noëlla Filliol et Elina Garcia, qui travaillent avec nous cet été. Elles sont allées demander aux passants comment ils percevaient les chats et si les félins étaient de droite ou de gauche.
Oui, moi j'aime bien les chats qui tuent les rats et les souris, donc dans les fermes c'est très bien les chats, mais alors à Paris enfermés dans des appartements, non, merci.
Je suis allergique aux chats donc j'ai jamais pu en avoir parce que ça me cause des rougeurs, je me gratte les yeux donc c'est pas possible.
On a des chiens et je suis d'accord pour dire qu'on est au maître de notre chien et au service du chat.
C'est très égoïste un chat.
Je pense que les chats sont de droite, ils sont très territoriales, les gens qui connaissent pas.
De droite, ils sont pas vraiment partageurs.
Macroniste, clairement macroniste.
De gauche ?
C'est des gauchistes de fous malades. C'est des grands flemmards. C'est des gauchistes.
Chat alors ?
Brunil Dragmadou, c'est incroyable quand même. On vient de l'entendre avec ces quelques mots, mais on a beaucoup de préjugés sur les chats. On l'a compris en fait, ils s'adaptent beaucoup à nos comportements aussi, les chats. C'est-à-dire qu'ils reflètent aussi la façon dont on les traite.
Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas du tout surprise de ce qu'on vient d'entendre au micro-trottoir. Voilà, ça fait partie de la longue liste d'idées reçues qu'on peut avoir sur le chat. Bon, malheureusement, elles continuent. Hein, elles sont bien ancrées, ces idées reçues. Donc, c'est ce que j'essayais aussi d'expliquer dans mon livre, d'essayer de percevoir le chat autrement qu'à travers
voilà. Notamment sur le mot indépendant qu'on entend régulièrement. Vous vous dites, non, il n'est pas indépendant le chat, il est dépendant.
Oui, tout à fait. Bah, justement, avec ce que Éric Baraté a expliqué juste avant, le fait que le chat vive captif avec nous, en maison, en appartement, sans sortir, il est totalement dépendant de nous pour sa nourriture, mais pas que, pour toutes ses ressources, en fait, et aussi par rapport à sa routine. En fait, on organise totalement son emploi du temps en fonction du nôtre, et donc il est vraiment totalement dépendant de nous, donc il a besoin de nous. Et ça, c'est très important.
Mathias Malzieu, ils sont dépendants de nous, et vous dépendez d'eux aussi.
Oui.
Il y a une espèce d'interdépendance qui s'est créée entre vous ?
Oui, là, nous, en tout cas, maintenant, ça s'est allégé. Mais au début, c'était vraiment... Alors, surtout pas d'analogie idiote entre l'enfant et... Même si l'amour peut être très intense, c'est toujours un petit peu idiot de tout mélanger. Mais par contre, il y avait un côté consolatoire très fort et un lien très, très fort. Et c'est vrai que ça parfume un endroit. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce bateau, avant... Et après le chat, on dirait que c'est pas le même qu'on a
c'est
refait.
Vrai, ouais.
On a refait la décoration ou la lumière, qu'on a changé la couleur. C'est Cocteau qui disait ça très très bien. qui disait qu'il aimait les chats parce que, au bout d'un moment, c'était l'âme de la maison. Il aime sa maison, que ça devenait l'âme de la maison. Et j'ai vraiment ressenti ça très très fort. Et vraiment pour lustrer la joie et la faire briller encore plus, et pour amoindrir les moments plus difficiles.
Ouais. Vous avez ressenti un apaisement quand ces chats sont arrivés ? Est-ce que c'est ce mot qui
convient ? Oui, un apaisement, parce que c'est drôle aussi.
Ouais.
Parce qu'on rit plus,
ouais.
Parce qu'on aime ne serait-ce que les contempler. Il y a le calme de la présence, mais il y a le jeu, il y a l'interaction dont on parlait tout à l'heure, mais même le regarder évoluer, c'est merveilleux, quoi. Mmh. Surtout quand à mon grand âge de 51 ans, on commence à avoir le dos qui craque. Eh bien, le chat qui scie comme ça, avec cette espèce d'élégance de sportif magique, bondit et se loge et se glisse comme ça, c'est une merveille quand on prend le temps un peu de le regarder.
Je crois qu'il vous nargue, en fait, hein, parce qu'il a compris que vous aviez mal au dos et que vous ne pourriez pas faire la même chose que lui.
Ouais, de temps en temps, il fait des bras d'honneur avec sa petite patte. Il croit que je ne l'ai pas vu, mais...
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Berlioz, ne soyez pas brutal.
On fait pas de mal, on s'entraîne à mordre et à griffer.
Les aristochats ne jouent pas à se mordre, à se griffer et autres gestes violents. Quelle horreur.
Le monde veut devenir un cat.
Everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline.
Les Aristochats et Jimmy Colomb. Les mots de Duchesse face à ses chatons, Marie, Toulouse et Berlioz dans Les Aristochats, donc. Exercice de ronronnement dans Grand Bien vous fasse ce matin grâce aux invités. Et aux chats, évidemment. Les chats qui vous inspirent beaucoup, on reçoit énormément de messages. Je vous en lis deux, mais vraiment je les prends au hasard parce qu'on n'arrête pas d'en recevoir. Suzy nous dit, nous avons une chatte de 10 ans, nous sommes chez elle et non l'inverse. Elle nous parle beaucoup et est très douée pour nous faire comprendre ce qu'elle veut. C'est un chat chien qui nous suit partout. On se promène avec elle en camping-car, elle adore ça. Sans elle, il nous manquerait quelque chose. Nous sommes à la retraite et elle est toujours avec nous. Et Agnès nous dit, je n'aimais pas les chats. Et puis un jour, ma petite fille m'a supplié de sauver une mamie de 10 ans. J'ai cédé, elle était sauvée. Elle ne se laissait pas toucher. Jamais elle n'entrera dans ma chambre et au grand jamais sur mon lit. 5 ans plus tard, elle me gouverne et je ne peux plus m'en séparer. C'est la nature des messages que l'on reçoit. Je voudrais vous faire écouter la suite du micro-trottoir, donc toujours réalisé par Elina Garcia et Noelia Filiol. Vous allez voir, il est question d'émotion.
Oui, j'ai un chat.
J'ai un élevage. À un moment, j'en ai eu une quinzaine. Là, j'en ai 4. C'est à cause d'une de mes ex que j'ai pris un chat de base. Et je me suis dit que je vais faire un élevage. En vrai, c'était kiffant. Ce qu'ils font.
Un chat, je pense que ça apporte surtout du réconfort. Ouais, je pense que c'est pour ça les gens seuls, ils aiment bien avoir un chat.
Ça ressent des fois la douleur, ça ressent la chaleur de l'être humain, donc ouais, je pense que ça doit ressentir des émotions. Ouais.
Je suis enseignante et il y aurait un chat dans chaque école. D'ailleurs, il y en a dans les maisons de retraite, c'est très très bien. Et pour mon père qui est décédé, le chat venait régulièrement, juste avant sa mort, se poser juste sur son ventre.
Mon chat, il m'apporte, je pense, beaucoup d'amour, de câlins. Ça fait plaisir de l'avoir quand je rentre le soir. Un peu de sécurité, je pense.
Et dis-toi, le pire, c'est quoi? Quand je rentre chez moi, j'arrive vers la descente, vers chez moi, je fais... Hey, j'en ai 3-4 à moi, ils arrivent, ils me suivent jusqu'à rentrer. Ils rentrent avec moi dans le bâtiment, c'est drôle.
Peut-être, ok, ils font leur vie, peut-être ils calculent pas des fois et tout, mais ils ressentent, en mode, ils sont toujours là, tu vois.
C'est kiffant, en vrai, c'est kiffant.
Bah oui, c'est kiffant, les chats. Bruni Drakmadou, est-ce qu'ils ressentent ces émotions, les chats? Est-ce qu'on le sait ou pas?
Qu'ils ressentent nos émotions?
Ouais, nos émotions.
Alors oui, on a quelques explications scientifiques là-dessus, mais on a encore beaucoup de découvertes à faire sur ce sujet. On a voilà quelques informations sur le fait qu'ils arrivent à détecter nos expressions faciales quand on est dans une émotion positive ou négative, l'intonation de notre voix. Notre gestuelle. Donc on a déjà quelques preuves du fait qu'ils puissent détecter comme ça certaines de nos émotions, mais on a encore pas mal de choses à découvrir.
Oui, mais
sur
ça qui est génial en même temps. Voilà, c'est jamais fini. Mathias Mazieu, les émotions, elles traversent votre histoire. Vous avez écrit ce conte, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez mis en musique, adapté pour la scène. Il y a beaucoup de reprises qui sont absolument sublimes. Je voudrais juste qu'on en écoute l'extrait d'une.
Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, peu importe si tu m'aimes, car moi je mourrai
Votre voix, Mathias Malzieu, mêlée à celle de Darian Elson. Est-ce que tous les deux, vous avez une relation très différente avec vos chats?
Oui, quand même. Oui, quand même, ne serait-ce que... Il y a une incarnation aussi de chaque chat.
Ouais,
c'est-à-dire que quelque part, moi j'ai développé un truc un peu particulier avec Tornado. Parce que en plus il a eu une maladie, et moi j'ai eu une maladie il y a 10 ans, et il avait les résultats sanguins similaires aux miens 10 ans plus tôt. Donc il y avait une espèce de... Il y avait un combat, j'avais l'impression de revivre ça à travers lui. Donc ça, il y a ce lien particulier. Et c'est vrai que Daria, souvent, parle de June comme de sa fille. Mais encore une fois, sans faire une analogie étrange.
On a bien compris, bien sûr.
Mais c'est juste dans l'impact de joie. Mais je crois que ce qui nous retient tous les deux aussi, qu'on peut retenir, c'est le rapport au mystère.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a une joie dans la question avec le chat. Le chien donne parfois l'impression de nous répondre avec son regard, ou justement, comme on disait, on lance quelque chose, il le ramène, même si apparemment certains chats le font maintenant. Mais le chat, il y a un mystère, on ne sait pas vraiment, et dans son « on ne sait pas vraiment », il y a toute la possibilité de l'imagination, et c'est pour ça qu'à mon avis, il est un bon compagnon des poètes ou des écrivains.
Je précise que votre...
Et des enfants.
Je précise la maladie de Tornado, vous me dites, si je me trompe, c'était une péritonite infectieuse féline,
exactement,
c'est ça.
Exactement ça.
Et cette maladie, elle a transformé temporairement votre vie, votre quotidien, parce que vous avez été obligé de trouver le traitement qu'il fallait pour sauver votre chat.
Tout à fait.
Et ce traitement-là, vous l'avez trouvé pas en France au départ.
Non, c'était clandestin.
C'était clandestin, oui. Vous avez une expression qui m'a fait rire. Vous disiez... Ah ben j'ai perdu ma feuille, vous voyez. Non, c'est ça, du trafic de drogue pour animaux malades avec des dealers d'espérance.
Exactement.
Comment vous avez fait en fait? Vous étiez au courant d'un traitement?
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu, grâce à l'éleveuse, nous a dit, mais il y a une chance, il y a un traitement. Les vétérinaires étaient quand même pas très emballés. Et même nous, on se posait la question de ne pas faire trop mal au chat, simplement. Donc, c'était fragile. Et puis, donc, il a fallu... voilà, il y a des gens qui... Bah, c'était comme du deal, en fait. Hein, mais du deal où les gens étaient surtout des bénévoles, etc. Pour essayer de récupérer ces flacons, pour le piquer à heure, toujours la même heure, c'était précis. Et bon, ça a duré quand même très longtemps, ça a été compliqué. Mais la très bonne nouvelle, outre qu'on a pu sauver notre chat, c'est que maintenant, ce traitement est homologué. Donc, vous pouvez, voilà, si vous avez un problème comme ça, maintenant, c'est beaucoup plus soignable.
Les vétérinaires sont au courant et voilà.
Et ça passe par des gommes et plus par des piqûres. D'accord. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple.
Voilà, et moins douloureux pour le chat. Vous connaissiez
exactement.
Ce traitement Brunhilde, oui.
Oui, tout à fait, oui. Et le fait qu'aujourd'hui, on puisse le trouver en France.
Oui. Bon, bah, c'est une bonne chose, en tout cas. Je vous présente Cécile Rossignol, qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour, Cécile.
Bonjour, Eva.
Je suis obligée de dévoiler une partie des coulisses de l'émission, parce que vous êtes la mère d'Elina Garcia, qui travaille avec nous cet été. Vous êtes venue, en fait, visiter la maison de la radio aujourd'hui, mais il s'avère que vous adorez les chats, donc je vous ai proposé de venir témoigner. Vous avez toujours eu des chats depuis que vous êtes enfant ?
Oui, depuis l'adolescence, et là j'ai encore un chat. Alors j'en ai eu beaucoup, mes parents avaient 20 chats quand j'étais adolescente.
20 chats ?
Oui, à la Colette un petit peu, adolescence à la Colette.
Mais alors à la Colette, mais dans une grande maison,
dans
j'imagine.
Dans une grande maison
avec un
à
jardin.
La campagne, voilà, on habite autour de Bordeaux, dans une grande maison avec un jardin.
Et ça participait, et ça participe encore à votre, je dirais, équilibre quotidien ?
Absolument, moi je suis fille unique et mes chats c'était vraiment mes frères et sœurs. J'ai adoré étudier leur comportement avant d'étudier le comportement des humains puisque je suis psychologue maintenant.
Oui, mais alors justement j'avais une question parce que vous êtes psychologue, vous vous occupez notamment des enfants et des préados si j'ai tout...
Et des adultes
et des
aussi.
Adultes.
Ouais.
Est-ce qu'un chat peut faire partie d'une thérapie ?
Absolument. Et d'ailleurs, Eva, je vais vous révéler que là, j'habite encore à la campagne, je reçois mes patients chez moi, et le chat fait partie des thérapies, en fait.
C'est-à-dire que le chat vient pendant les consultations ?
Voilà. Alors, je demande l'autorisation avant à mes patients, parce qu'il y a des patients qui ont la phobie des chats, et s'ils sont d'accord, eh bien, je laisse le chat, c'est une chatte qui s'appelle Aliénor, je la laisse venir, et ce qui est très troublant, c'est que vraiment tout ce qui a été dit jusqu'à présent, je le constate dans mon quotidien, puisque le chat peut aller aller. Moi, je vois des gens qui sont en souffrance psychique, vraiment sur le corps des patients pour les apaiser.
Ah oui.
Le ronronnement, les caresses, sa présence, et ça fait vraiment du bien à mes patients. Ils me le décrivent comme ça.
Et alors, pardon pour cette question, est-ce qu'il y a parfois le chat qui ne s'approche pas de votre
Absolument.
Patient?
Absolument, oui.
Donc, parce qu'il sent que ce n'est pas le moment, parce qu'il sent qu'il ne faut pas y aller.
C'est difficile à expliquer. Ouais. Pour autant, ouais, vraiment, les comportements sont très différents suivant les personnes et les contextes.
Moi, alors, j'ai toujours l'impression qu'adopter des animaux quand on a des enfants, c'est aussi potentiellement, pardon, je n'ai pas du tout l'esprit négatif, mais je pense souvent à ça, c'est confronter les enfants quand même à la mort du chat, voilà, ou du chien. Je ne sais pas s'il y a des parents qui pensent à ça pour cette raison et qui hésitent à adopter un animal. Est-ce que ça peut être traumatisant, selon vous, pour des enfants?
C'est intéressant, Eva. Oui, puisque la mort fait partie de la vie. En fait, c'est le rapport que l'on va avoir à la mort de nos proches, la mort de nos animaux de compagnie. Moi, je pars du principe que ça peut être une expérience justement intéressante chez l'enfant de faire cette expérience de la mort, même si c'était un animal de compagnie très aimé.
Ouais. D'ailleurs, Éric Baraté, pardon pour cette question qui est un peu une question en aparté, mais d'où vient la légende des 7 vies d'un chat ?
Oh, c'est parce que on pensait que les... Il y avait beaucoup de violence au Moyen-Âge et on pensait que les chats avaient la capacité de s'échapper, de survivre, de revenir, etc. Une espèce de résistance par rapport à comment dire, les persécutions que l'on pouvait faire. Et c'est vrai que ces chats étaient, on dirait maintenant, un peu résilients. Hein, c'est-à-dire qu'ils vivaient avec nous, dans les maisons, dans les villes, dans les rues, mais ils ne vivaient pas en osmose. Et donc, il fallait qu'ils aient la capacité à se faire très discrets, à disparaître, à revenir. Il y avait une autre croyance qui a duré jusqu'au XVIIIe siècle. On était persuadé que la veille de la Saint-Jean, les chats partaient au sabbat, adorer Satan, hein, qui lui-même se présentait en forme de gros chat noir. Et d'où l'expression, d'ailleurs...
Il n'y a plus un chat, c'est ça ?
Il n'y a plus un chat. Ouais. Hein, l'expression « il n'y a plus un chat » vient de là. On était certain que les chats partaient. Et le lendemain, à la Saint-Jean, eh bien, dans beaucoup de villes et dans des villages, jusqu'au XVIIIe siècle, on capturait des chats et on les violentait, on les mettait dans des sacs, on les jetait à la rivière ou on les brûlait, on faisait un bûcher, on les brûlait pour exorciser le mal, pour dire à Satan qu'il avait beau avoir des alliés, il ne vaincrait pas. Et donc, mais il y avait cette idée quand même qu'on avait beau, violenter le chat, il était toujours là.
Eva Rock.
Ses paupières deviennent lourdes.
Grand bien vous fasse.
Tu as de plus en plus sommeil. Il n'est plus un chat, mais une madeleine.
Sur France Inter.
Alf et sa passion pour les chats, j'ai compris avec l'équipe que Alf n'était pas une référence pour tout le monde, parce qu'effectivement, la diffusion s'est arrêtée dans les années 90. Vous connaissiez Mathias Malieu ?
J'ai mangé le chat.
Voilà, merci beaucoup, heureusement que vous êtes là. C'était une façon de finir avec un nouveau sourire cette émission. Brunil Ragmado, on parlait des enfants juste avant qu'on écoute Mathias Malieu. Vous évoquez les relations des chats et des enfants dans votre livre. Comment on gère la cohabitation chat-enfant ?
Alors, ça va être important de toujours penser à l'aménagement de l'environnement pour être sûr que le chat ait la possibilité de fuir si jamais l'enfant a très envie de lui faire un gros câlin et que le chat n'a pas envie. Ça peut arriver de temps en temps. Si le chat a une possibilité de fuite, notamment en hauteur ou dans une pièce spécifique, il n'agressera pas. Parce que le risque est toujours que s'il se sent acculé dans un coin d'une pièce, qu'il se mette à agresser l'enfant qui se rapproche trop, c'est uniquement pour se protéger, ça n'a rien de méchant ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'autoprotection. Donc il faut éviter en fait d'entrer dans ce genre de situation et voilà, les éviter en lui donnant des accès en hauteur. Et puis ça peut être intéressant aussi d'apprendre à l'enfant à observer le chat. Moi, c'est tout souvent des conseils que je donne quand j'accompagne des familles et des conseils aussi que j'applique à la maison. C'est prendre le temps d'observer à distance le chat sans toucher. Parce que nous, humains, on est une espèce qui est très tactile et on a toujours très envie de toucher. Et le chat n'a pas forcément envie d'être touché. Mais par contre, prendre le temps de l'observer, regarder les mouvements qu'il va faire, ses oreilles, sa tête, voir comment il se déplace, ça peut intéresser l'enfant aussi.
Il y a un mot extrêmement important dans votre livre qui est le mot consentement, qui m'a surprise au départ. Mais vous dites, le chat, quand il vient ronronner à côté de vous, c'est pas forcément parce qu'il a envie qu'on le caresse. Il faut comprendre ce qu'il désire et s'il veut vraiment être touché à ce moment-là.
Oui, effectivement, à ce moment-là, le ronronnement, ça va être une invitation à l'interaction, mais l'interaction ne veut pas dire de la part du chat « je voudrais que tu me caresses », ça veut dire « voilà, je m'approche de toi, je voudrais être en contact avec toi ». Ça s'arrête là, mais après, on peut passer à l'étape suivante si le chat est OK pour qu'on le caresse. Donc c'est important, effectivement, de lui demander son accord, de vérifier, de prendre le temps et de ne pas le caresser directement. Même si plein de chats se laisseront faire, ce n'est pas pour ça qu'ils sont consentants et qu'ils apprécient.
Mathias Mazieu, je vous ai vu réagir au mot « consentement ».
Oui, parce que je crois que pour les enfants, justement, c'est une très bonne école. On parlait de l'histoire de la mort tout à l'heure et de la mort qui fait partie de la vie. Et je crois que c'est une très bonne éducation. Le chat n'est pas un jouet.
Ouais.
Et je pense que même pour la suite, c'est une bonne chose pour les enfants, évidemment, mais même pour les adultes.
Mais on est bien d'accord.
Que c'est pas mal, en fait, de se comporter. Moi, j'ai toujours, par exemple, j'ai cette expression, je déteste les gens qui parlent à des chiens comme à des chiens. Donc faisons pareil avec les chats.
On est bien d'accord. Éric Baraté, une dernière question, mais le chat, c'est aussi un enjeu pour la biodiversité ?
Oui, ça commence à poser un problème, effectivement, parce que la mode du chat a fait que les effectifs ont explosé. Et parallèlement, vous l'avez dit d'ailleurs en début d'émission, il y a beaucoup d'abandon. Et les chats, évidemment, ont encore la capacité, si on les abandonne, de se débrouiller, ce que ne peut plus faire un chien. Je pense que les chats-chiens, un jour ou l'autre, ne pourront plus le faire non plus, puisque on voit apparaître maintenant l'anxiété de séparation chez les chats. Hein. Donc, quand vous le mettrez à la porte, il restera devant la porte pour miauler. Il ne le fait pas encore. Et donc, il part chasser. Et là, ça devient un prédateur important pour les oiseaux et les rongeurs. C'est une préoccupation qui est venue des pays anglo-saxons, et notamment des États-Unis, qui commence maintenant à arriver en Europe. Il y a des pays comme la Belgique, la Suisse, qui ont pris des mesures. Ce sont des mesures simples. Hein. Il ne s'agit pas, comme le proposent des chasseurs, de tirer sur les chats.
Bien sûr.
Mais des mesures simples, comme par exemple ne pas laisser sortir son chat la nuit, parce que c'est là qu'il a la prédation est la plus forte. Ou, par exemple, pratiquer la stérilisation, parce que ça évite ensuite la prolifération incontrôlée. Mais c'est vrai que des pays, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, sont devenus extrêmement exigeants, et d'où le fait, par exemple, on ne peut plus sortir dans les rues sans que le chat soit en laisse. Ou alors, il faut qu'il y ait des parcs à chats dans les jardins des maisons pour qu'ils ne puissent plus attaquer la biodiversité. Alors, c'est vrai que en Australie, la biodiversité est en très très grand danger. En Nouvelle-Zélande, au contraire, c'est encore un paradis, donc ils veulent le préserver. Mais c'est une question qui est en train de venir, qui est due avant tout, c'est pas la faute des chats, hein, c'est avant tout la faute de notre gestion. On multiplie les chats parce qu'on les aime, mais en même temps, on les abandonne beaucoup.
Et oui, c'est ça. Mathias Mazieu, il y a une scène dans votre livre qui m'a fait hurler de rire, c'est que votre chat, au bout d'un moment, s'enfuit. Je vais essayer de pas trop dévoiler des choses, mais je crois pas. Il s'enfuit et il se retrouve face à un rat au départ, bon, puis plusieurs rats. Et vraiment, en fait, c'est votre chat qui a peur des rats, on est bien d'accord.
Oui, bah oui, c'est ce genre de chat-là. C'est-à-dire que...
Il ne pourra pas vous faire chasser les rats de votre bateau.
Surtout qu'on s'aperçoit, un petit peu plus tard que quand c'est l'autre narrateur qui reprend la main, que ce qu'il a pris pour un gang de rats terrible, un peu, il s'est cru dans West Side Story, finalement, c'était des souriceaux.
C'était des souriceaux.
Mais que déjà, ça lui a fait très, très peur.
Mais résultat, ça nous vaut quand même une très belle reprise de Maria dans votre bande originale, adaptée de votre livre « L'homme qui écoutait battre le cœur des enfants ». Tous les jours, on aime bien terminer avec vos coups de cœur, chers invités, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de poursuivre la réflexion sur le thème de l'émission, donc en l'occurrence, les chats, aujourd'hui. Éric Baraté, notre conversation vous a fait penser à un film, un livre, une chanson, une citation ?
Oui, alors un livre, c'est le livre d'une Néo-Zélandaise dont je suis en train d'oublier le nom, je m'excuse.
On mettra les références sur la page de l'émission.
Le livre s'appelle Jonah, hein, c'est la vie de son chat Jonah. C'est un livre qui a eu un énorme succès dans le monde anglo-saxon. Plus de 5 millions d'exemplaires vendus, hein, il y a eu des films, etc. Et c'est le premier témoignage concret sur l'arrivée des chats-chiens dans ce monde anglo-saxon. Elle se retrouve avec un chat qui la suit suit partout. Ça a été évoqué dans vos témoignages, hein, qui la suit partout. Elle ferme la porte pour être tranquille. Le chat est derrière en miaulant. Et elle se retrouve avec un chat, un type de chat qu'elle ne connaissait absolument pas. Et elle raconte cet apprentissage et le fait que finalement, il y a une espèce de découverte réciproque entre l'un et l'autre. C'est un très beau témoignage qui existe en français. Il a été traduit en collection de poche maintenant. Et donc, très beau témoignage que l'on peut lire très facilement.
Eh ben, merci beaucoup. On va mettre toutes les références, hein, de l'autrice et du livre sur la page de l'émission de Grand Bien vous fasse. Vous la retrouvez via l'application de Radio France. Mathias Malzieu, vous avez pensé à quoi?
Oui, j'ai pensé à Philosophie féline, Les chats et le sens de l'existence de John Gray.
Oui.
Que j'ai lu au moment où on a eu les chats. Et notamment sur la question du stoïcisme, l'idée que les chats ne se projettent pas. Encore une fois, c'est une vue de l'esprit parce qu'on n'en sait rien.
Oui, bien sûr, on ne sait pas, évidemment.
On n'en sait rien, mais le fait qu'ils soient que dans le présent, c'est toujours une petite leçon amusante à les regarder comme ça, ultra profiter d'eux-mêmes et de ce qui se passe autour d'eux, c'est joyeux.
Merci beaucoup, merci infiniment. Je voudrais finir avec le message d'Elisa qui nous dit « Un jour, un chat sauvage m'a attaqué, je suis passée au bloc opératoire à cause d'une infection, mais ça ne m'a pas traumatisée, je pense qu'elle est en train de me narguer, et elle a toujours des chats, évidemment, dans sa maison. » merci infiniment à tous les trois, toutes
merci
les références
hein,
de l'homme qui écoutait battre le cœur des chats sont à retrouver sur la page de l'émission. On y indiquera les dates des prochains spectacles, Mathias Malzieu, et puis également toutes les informations concernant vos livres respectifs, Brunil Ragmadou, ça s'appelle Comprendre son chat, c'est aux éditions Tana. Et puis également le livre d'Éric Baraté, Elles ne sortent jamais les griffes. Claire Destacan était à la réalisation ce matin. Jessica Bagy, Anna Massardier, Noélia Filiol et Elina Garcia à la préparation de l'émission. On remercie Cécile, qui est la maman d'Elina Garcia, d'avoir été avec nous ce matin. Et à la technique, il y avait aussi Tiffany Battistel et Adèle Caglar.
Grand Bien vous fasse, un podcast France Inter.